stop you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi, ce soir, Corinne Rondeau, Stéphane Coréard, Frédéric Bonnet. À notre affiche, Gréco au Grand Palais, les infamies photographiques de Sigmar Polk au Bal, Katinka Bock à Lafayette, Anticipation et un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'exposition de Richard Nonas à la galerie Christophe Gaillard. Nous ouvrons donc cette dispute avec l'exposition Gréco, présentée jusqu'au 10 février au Grand Palais. Les commissaires en sont Guillaume Kens et Charlotte Chastel-Rousseau. La scénographie est signée Véronique Dolfus. Né en 1541 en Crète, Domenico Theotokopoulos, c'est plus simple de dire El Gréco, il a fait son premier apprentissage dans la tradition byzantine. Il a ensuite parfait sa formation à Venise, puis à Rome, mais c'est en Espagne, évidemment, que son talent va pouvoir se déployer. Il s'installe en Espagne à partir des années 1570. Il mourra d'ailleurs à Tolède en 1614. Célébré de son vivant, il va tomber dans l'oubli avant d'être redécouvert au milieu du 19e siècle, notamment par les romantiques français. Ensuite, les avant-gardes du 20e siècle se réclameront souvent de lui. Le communiqué de presse du Grand Palais précise que cette rétrospective est la première grande exposition jamais consacrée en France à ce génie artistique. L'inspecteur Coréard nous dira si c'est vrai. Moi, je ne le sais pas, mais ça comble en tout cas une grande lacune, puisque pour le coup, ça faisait quand même de mon vivant. Je n'avais jamais vu ça. 70 peintures du Gréco. Le premier regard sur cette exposition, Corinne Rondeau.
C'est tellement bien de voir du Gréco.
Stéphane Coréard.
Oui, un éblouissement.
Frédéric Bonnet.
Magistral.
Voilà qui est synthétique. C'est merveilleux. Synthétique aussi la description du parcours tel que va nous la délivrer, décrire. Corinne Rondeau.
Le parcours est parfaitement chronologique. Donc en fait, comme vous l'avez indiqué dans votre chapeau, cher Arnaud, on commence par de la représentation byzantine et des icônes pour aller très vite en fait à son. C'est un globe-trotteur ou un exilé, on ne sait pas trop comment il faut le nommer, où on va avoir effectivement tous des petits formats où il reprend finalement une mode vénitienne beaucoup. On voit une annonciation qui ressemble beaucoup à celle du Titien de l'église de Saint-Salvador à Venise. Et puis on voit aussi d'autres influences qui sont celles du Tintoret, qui sont deux des grands noms qui vont influencer de manière définitive le Tintoret.
Gréco.
Et le Gréco. Et puis on va aller, dès qu'on sort de ce couloir-là, il y a une belle diagonale, on va rentrer dans une salle de portrait où il y a le portrait de l'inquisiteur du cardinal Nino de Guevara, mais aussi le futur prédicateur de Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint. Le frère Hortensio, Félix Paravicino, qui sont absolument admirables et d'une beauté folle. Mais dans cette diagonale, on voit l'Assomption déjà arrivée, qui est celle de Chicago, qui n'est pas rien. Et lorsqu'en fait on va vers elle, il y a d'autres tableaux qui nous entourent, puisqu'en fait on est dans une partie qui va être celle des premières grandes commandes du Gréco, notamment sa première grande commande qui est le partage de la tunique du Christ. Et là on va avoir aussi notamment le songe de Philippe II d'Espagne, complètement délirant, avec une densité de personnages qui ressemble beaucoup au Tintoret aussi encore, et d'autres très beaux tableaux, l'Adoration des bergers qui est au secours, je m'évanouis. Et puis cette Assomption là qui vous ouvre une salle beaucoup plus ouverte, beaucoup plus aérée, dont on va faire le tour de droite à gauche, où on va retrouver un certain nombre de motifs qui vont déjà qui étaient déjà annoncés dans les premières salles sur des variations et des répétitions. Alors le Gréco n'aura pas inventé ces répétitions de motifs. On va faire plusieurs Saint-François d'Assise, on va faire plusieurs Saint-Paul et Saint-Pierre, mais on va les voir là s'ouvrir sur le chemin. Et au moment où en fait vous êtes face à l'Assomption, c'est tellement beau, vous vous retournez avant de faire votre tour et vous avez dans le dos la crucifixion du Louvre qui est là, qui est une merveille. Il y a une autre crucifixion d'ailleurs qui est là, mais cette fois-ci elle vient des États-Unis, que j'aime moins. Puis vous faites donc ce tour et puis on va aller vers d'autres tableaux qui seront là, beaucoup plus mis en série, des variations sur le motif, comme le dit le parcours, à savoir l'agonie du Christ dans le jardin des Oliviers, une Pietà absolument sublime. Et puis ensuite, on va finir par quelque chose de très inattendu, quatre dessins du Gréco. Bien sûr, au milieu, j'ai oublié une sculpture inattendue du Christ tout nu, comme vous me l'avez fait remarquer.
Dans son tabernacle.
Dans son tabernacle. Et puis ensuite, tout ce qui correspond effectivement à la puissance du peintre à Tolède, puisque le parcours, effectivement, c'est les villes que vous avez citées tout à l'heure. Et on finit à Tolède. Et puis, les variations encore sur le motif du Christ chassant les marchands du temple. Et puis, les derniers tableaux qui sont notamment l'ouverture du cinquième sceau qui est gigantesque, et puis l'Annonciation qui est un des tableaux les plus connus du Gréco, et on regrette peut-être aussi qu'il n'y ait pas de tableau du Prado.
Oui.
Mais on a très belles, de très beaux prés.
Ah oui,
quand
même.
Beaucoup, les États-Unis,
notamment
ont été,
Chicago.
Oui.
Stéphane Coréard, en quoi cette exposition est importante?
Ben, vous le savez, Arnaud, moi j'aime bien quand on voit des expositions comme ça consacrées malgré tout à un peintre qui était actif il y a 450 ans. Que ce soit aussi des expositions qui nous disent pourquoi c'est un peintre qu'aujourd'hui on doit regarder, pourquoi il est totalement contemporain. Alors le parti pris de Guillaume Kintz, et de sa co-commissaire dont je
Charles Chastel,
voilà, j'oublie le nom, c'est effectivement de nous présenter un Gréco
un nom célèbre et important,
de nous présenter un Gréco à nu, je dirais. Il n'y a pas de sous-titre à l'exposition, il n'y a même pas d'article, c'est Gréco, avec uniquement des œuvres de lui dans l'exposition, ce qui devient rare. Donc il faut le souligner.
Ouais, c'est pas Gréco et ses contemporains.
Voilà, Gréco, voilà. Là. Et sur des cimes blanches, ce qui est un parti pris très radical, mais qui fait souffler aussi peut-être un vent de modernité, et montre Gréco contribue à le montrer de manière très contemporaine. Je trouve que dès la première salle, effectivement, les icônes et ces tout petits tableaux qui correspondent pas à l'image qu'on se fait du Gréco qu'on a vu effectivement en Espagne, etc. On comprend tout de suite qu'on va voir des choses. Enfin. Que l'exposition va renouveler notre regard sur Gréco. Finalement, c'est un regard qui est relativement récent, puisque ça fait finalement qu'un siècle, un peu plus d'un siècle, qu'on regarde cette peinture. Mais nous, on croit bien la connaître. On a beaucoup parlé de la folie de Gréco, de ses problèmes soi-disant oculaires, etc. Là, l'exposition balaye tout ça et nous montre une vraie trajectoire. Une trajectoire effectivement hors du temps, dans le sens qu'elle est très contemporaine et finalement très à part de l'image qu'on peut se faire de la peinture de la Renaissance, d'un artiste qui, là aussi, actif dans trois pays. Je pense que c'est quand même un des seuls exemples d'artistes de son temps qui était un artiste comme ça, nomade, et on a l'impression qu'il est vraiment parti à la recherche de sa propre singularité. Ce que l'exposition va nous montrer, avec une grande économie de moyens, je trouve, parce que si le propos curatorial est à la fois limpide et il est quand même totalement implicite, il n'y a pas de long texte de salle, de cartel développé, de débat récurrent actuellement, c'est uniquement les œuvres et leur rapprochement et leur accrochage qui est plutôt sublime, qui permet de comprendre le propos des commissaires, qui est effectivement de montrer cette modernité et comment la redécouverte de Gréco finalement n'a été possible qu'au XXe siècle, notamment parce que c'est là où on a commencé à disposer d'outils de reproduction qui ont permis de voir tout le corpus, l'étendue de ce corpus et son développement, même s'il y a des problèmes de datation, enfin des querelles de datation, je dirais, qui restent avec les experts, mais voir cette peinture se dérouler dans son temps avec cette singularité qui s'affirme finalement très tôt, mais qui se développe je dirais presque en spirale, comme ça, d'une manière étourdissante, je trouve que l'exposition est vraiment magnifique.
Frédéric Bonnet, même enthousiasme.
Ah ben oui, totalement, parce que on connaît des images, on a pu voir certains tableaux en visitant des musées à l'étranger. Évidemment, une telle concentration, ça s'est jamais vu. Mmh. On le dit à chaque fois qu'il y a des expositions de ce type, il faut y aller parce que ça ne se reproduira plus. Mmh. Et en effet, ça ne se reproduira probablement plus jamais. D'ailleurs, même le Prado a pas prêté les trois tableaux qu'il devait prêter. Donc voilà. Et c'est vrai que le Grand Palais a très très bien joué de la conjonction, parce que l'exposition est organisée en coopération avec l'Art Institute à Chicago, ce qui a permis, je pense, de débloquer beaucoup de prêts américains
et de pièces de
premier ordre. Ce qui est formidable aussi, c'est que même si on connaît un peu Gréco, et encore une fois qu'on a vu des œuvres dans des musées, moi tout le début je n'en connaissais rien, je n'en avais jamais rien vu hormis quelques petites vignettes éventuellement dans quelques ouvrages d'histoire de l'art, et encore c'est jamais trop ce qu'on vous reproduit du Gréco. Mmh. Et ce qui est absolument formidable, c'est que ce peintre qu'on connaît quand même un petit peu, on voit que il aurait pu rester un très bon faiseur d'icônes post-byzantines, comme il commence à ses débuts en quittant la Crète. Effectivement, Stéphane, vous parliez de son parcours de la Crète à Venise, à Rome, à Madrid, puis à Tolède. Et ça, c'est quelque chose d'absolument, je trouve, exceptionnel dans une carrière d'artiste de cette époque, parce que, véritablement, ça va forger une singularité. Ça va forger une singularité qui s'appuie sur la nécessité à l'époque de servir le discours de la contre-réforme. Le Concile de Trente est en train de s'achever, et qu'est-ce qu'on demande aux artistes? C'est de produire des tableaux qui portent une vraisemblance de l'image. Et donc Gréco va essayer de s'attacher à servir ce discours de la contre-réforme tout en conservant les idéaux d'innovation de la Renaissance. Et c'est ça qui produit un gap, une sorte de twist absolu, parce que ça va finalement ébranler les canons et les fondements du classicisme. Alors après, on peut gloser sur les influences multiples du Gréco, mais c'est vrai que on retrouve la dynamique du Tintoret, on retrouve évidemment les couleurs de Titien chez qui il est passé, la plastique de Michel-Ange, mais tout ça mélangé, ça donne un travail profondément singulier que cette exposition, dans la manière assez remarquable dont elle est conçue, rend pleinement cette singularité.
Corinne Rondeau, après cette belle description, qui avec quelques exclamations tout à l'heure, on va revenir du côté des exclamations plutôt.
Oui, non, c'est. Je reviens sur ce que dit Frédéric. C'est vrai. Bon, on peut aussi un peu gloser sur les influences, notamment vénitiennes, parce que c'est un vénitien jusqu'au bout. Il a une manière de travailler la peinture sans le dessin. Donc il va s'impliquer même à partir de, le catalogue le démontre assez bien, tout ce qu'il va écrire justement sur la théorisation de la peinture sans le disegno, qui va évidemment produire au XVIIe siècle, on sait, le grand conflit entre ceux qui veulent faire du dessin, ceux qui font du dessin et ceux qui font de la couleur. Donc c'est un peintre qui est sauvage avec la peinture. Enfin, vous parliez de twist, mais c'est parce que ces peintures sont des contrapostilles invraisemblables. On ne voit pas ça. Et je ne vais pas parler de la gloss, mais d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est qu'il est sans doute le peintre qui aboutit l'art italien à l'endroit où l'Italie n'est plus. Et c'est ça qui fait la grande force du Gréco, notamment parce qu'il est aussi influencé par un maniérisme dont il va finir quelque chose du maniérisme à Rome, et un peu avec le Titien, mais qu'il finira ailleurs. Donc ce qui est très très fort, je trouve, dans sa pratique, parce que c'est un peintre, enfin et il est vénitien dans la mesure où il ne théorise pas. Il est anti-florentin. Il n'est pas. Et d'ailleurs, il se fait éjecter de Rome parce qu'il a des propos à propos de Michel-Ange qui sont terribles. Genre, je peux faire mieux que la chapelle Sixtine. Enfin, bon, voilà. Ce qui est pas faux d'ailleurs quand on le regarde. Mais ce qui est sidérant, c'est effectivement cette manière dont il a une capacité à organiser quand même ses séries, quoi, et de les voir évoluer. Par exemple, la verticalisation, l'inscription de l'architecture peu à peu, mais aussi la manière dont on fait, il peint les regards de face lorsqu'il s'agit de portraits contemporains, et lorsqu'il s'agit de portraits divins ou chrétiens, tous les portraits sont liés effectivement à la contre-réforme, c'est-à-dire l'importance des larmes, puisqu'en fait, l'importance des larmes, c'est l'implication d'une nouvelle représentation de la prière, c'est aussi la manière de dire, eh bien, on est à confesse, on est dans l'autocritique, et ce sont effectivement des éléments qui sont propres à la volonté du Concile de Trente, qui a été une manière de régénérer l'iconographie, enfin, est-ce que c'était un bien ou un mal, en tout cas, c'était une obligation, puisque c'était au moment de la critique des protestants, en disant, bah, c'est pas possible, on peut pas peindre ça, ça et ça. Donc, il y a eu un certain nombre de canons iconographiques qui ont été modifiés à ce moment-là. Et ce qui est fort, ce que, vraiment j'abonde dans le sens de Frédéric, cette manière dont il a de résister et en même temps d'aller vers la dimension iconographique et toute l'importance, je dirais, de cette époque, à la fois mystique et à la fois de réforme très dure de l'Église, c'est-à-dire à quel, par exemple, le Saint Paul et le Saint Pierre, lorsqu'on voit leurs deux mains se frôler, et le plus beau des deux tableaux, c'est celui de Barcelone qui est là. C'est parce que Saint Paul et Saint Pierre se battent, ils sont en conflit. Ce sont des apôtres qui ne s'aiment pas et qui ont des rapports de conflictuels. Et en fait, cette manière est une manière de dire, c'est pas parce que c'est beau et qu'il aime que les mains se croisent, le Gréco. C'est parce que c'est une manière de dire, il faut faire l'unité de l'Église catholique dans toutes ses obédiences, y compris entre ceux qui, à la base, se sont combattus, on va dire. Donc il a une puissance, une résistance, et il a moi ce que j'appelle la puissance de ses maladresses, cette manière de mettre une vitalité dans la peinture et sur le, il y a plus de volume, il y a que du travail, c'est de la plasticité. Il sculpte le tableau, mais avec des pinceaux. Et c'est ça qui est dingue. Les crucifiés, les croix, ils n'ont plus de volume, et les roches sont peintes comme des étoffes. Et ça, il y a plus de perspective. Pardon, je finis. Pardon, excusez-moi. Pardon. Et les profondeurs, en fait, il ne les fait jouer que par de la couleur. Les premiers plans, les derniers plans, c'est que la couleur qui fait ses loin, ses près. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est là que les modernes ont vu ce rapport optique très fort chez cette plasticité vraiment du corps chez le Gréco.
Stéphane Coréard.
Oui, ce que dit Corinne est très vrai. On le voit particulièrement dans les quatre versions de Jésus chassant les marchands du temple, je trouve, avec ces deux personnages, Jésus et celui qui tourne le dos et qui a une tunique qui devient de plus en plus dorée au fur et à mesure des versions. D'ailleurs, je préconise de faire au moins trois fois le tour de l'exposition. Une deuxième fois pour les mains. On peut regarder toutes les mains, on peut regarder que les mains.
Les larmes
chez Gréco.
Yeux.
On peut regarder le sang qui coule aussi, les larmes et le sang du Christ qui coule de manière incroyable. Et puis on peut revenir pour les étoffes, effectivement, parce que je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je sais bien quand même que Corinne parle de la peinture, parce que c'est quand même un peintre absolument fabuleux, extraordinaire, les distorsions de corps, les volumes d'étoffes qui se mélangent avec ces grottes. Enfin, on sait plus du tout où on est. C'est ça qui est vraiment sublime. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans l'exposition, c'est que ces audaces de peintre sont peut-être avant tout des audaces conceptuelles. Et c'est, je pense, ça aussi, l'autre dimension. C'est vrai qu'on sait qu'il a beaucoup frappé Picasso, par exemple, mais je pense qu'il a beaucoup frappé aussi Duchamp, et finalement tout l'art du XXe siècle peut lui devoir quelque chose à des degrés divers. Par exemple, les compositions des tableaux, je ne m'étais pas rendu compte, parce que je n'avais jamais vu autant de tableaux rassemblés, que le centre du tableau est très souvent occupé par une masse monochrome, voire même très souvent blanche, aveugle, une espèce d'antimatière comme ça, qui absorbe à la fois le tableau et fait circuler le regard à la périphérie, où justement là on trouve toutes ces couleurs extraordinaires qu'on va retrouver chez Bacon, qu'on peut retrouver en ce moment si on peut visiter les deux expositions
au Centre Pompidou.
Successivement. Ça, par exemple, j'ai trouvé que c'était incroyablement moderne. Il y a aussi dans une mise en abîme systématique, l'œuvre dans l'œuvre, par exemple. Alors ça aussi, ça commence dès le début, parce que le premier tableau, très intelligemment, qui est placé à l'entrée de l'exposition, c'est Sainte Véronique avec la face du Christ sur le linge. Mais ensuite, il y a Saint Luc qui ouvre un tableau où il montre une Vierge à l'enfant. Ça, c'est fabuleux parce que c'est un Gréco à l'intérieur d'un Gréco. Et après, il le systématise de plus en plus avec la sculpture, avec l'architecture, avec la peinture, parfois jusqu'à l'auto-citation.
Frédéric Bonnet, un mot encore.
Oui, ce qui est remarquablement fait aussi dans l'exposition, c'est d'avoir juxtaposé différentes versions de certains tableaux, dans certains sujets. Et c'est là qu'on voit que répétition n'équivaut pas à similarité, mais plutôt à variation, voire à réinvention. C'est vraiment très très finement joué de la part des commissaires. Il y a deux versions du Jardin des Oliviers, deux Marie-Madeleine. Les deux Marie-Madeleine sont saisissantes parce que on voit très bien comment est-ce que il se libère encore plus. Il était déjà une figure libre, mais à 20 ans, à 10, 15 ou 20 ans d'intervalle, il se libère encore plus. Les couleurs deviennent toujours encore plus péchues, presque agressives parfois, par moments. Et effectivement, on en arrive à un moment où c'est la couleur qui tient le tableau, littéralement. Quand vous parliez, Stéphane, du centre blanc du tableau, j'imagine que vous faisiez référence à la Pietà de 1580. Ce tableau est absolument incroyable parce que vous avez une gradation qui part du jaune au vert, au bleu, au violet, qui finit par du lilas, avec au centre le corps du Christ en gris blanc qui irradie complètement sur la composition. Et puis après, les entrechoquements de couleurs, on peut en parler, il y en a des dizaines d'exemples où on n'a pas peur d'associer des coloris hyper franc, hyper tranché. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Michel-Ange, de Tintoret, de Titien. Je pense aussi qu'il a beaucoup regardé Raphaël et qu'il est allé encore au-delà, qu'il s'est dit qu'il pouvait aller encore au-delà que Raphaël dans le traitement de la couleur également.
Alors, dire aussi que alors vous avez quand même évidemment tous et toutes beaucoup de références et de connaissances, mais qu'un œil moins habitué que vous et moins informé que vous, le mien, est complètement étourdi devant ces toiles, parce qu'on ne sait plus aussi dans quelle temporalité on est avec Caricourt. On ne sait plus si on est à la Renaissance, c'est déjà l'âge d'or, c'est aussi le XXe siècle, enfin c'est absolument étourdissant aussi, ça fait plusieurs fois que je le dis mais je recommence, hein. En ce moment on a Bacon, on a Toulouse-Lautrec, on a Hartung, on a, n'oublions pas Mondrian figuratif, Gréco, bon, Paris, la capitale du monde de l'art, et puis c'est tout. On s'arrête là pour Gréco, parce qu'il y a encore un programme qui suit. C'est jusqu'au 10 février, au Grand Palais à Paris, qu'on vous recommande cette exposition dans laquelle il faut faire le tour au moins trois fois, et peut-être y revenir aussi trois fois si l'on peut.
Oui, je veux Stéphane. Juste faire de la publicité, bien je n'ai pas, pour la carte Sésame du Grand Palais,
ouais.
Parce que j'ai découvert hier, en retournant à l'exposition, avec stupeur, que le jour de fermeture, c'est ouvert pour les détenteurs d'une carte Sésame. Donc on peut être aussi privilégié que les journalistes, avec la carte Sésame du Grand Palais, aller voir les expositions, les jours de fermeture, je trouve que ça mérite de le signaler.
C'est remarquable. Catalogue, édité par la RMN Grand Palais, puis si vous nous écoutez à Chicago, l'exposition sera là chez vous du 7 mars au 21 juin, forcément un peu différente, mais avec sans doute, j'imagine, le même ensemble, riche de tableaux du Gréco. On va parler de Zygmar Polke, de Katinka Bock et de Richard Nonas.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique avec les infamies photographiques de Zygmar Polke, c'est au bal à Paris. Les commissaires en sont Fritz Esmlander et Bernard Marcadet. De quelles infamies s'agit-il? C'est la question évidemment que nous nous posons. Des centaines de tirages, sans titre ni date. Bon, c'est non. Quelle date quand même des années 70-80, des tirages qui étaient restés longtemps, nous expliquons, dans une caisse chez Georg, fils de Zygmar Polke, qu'on avait visiblement un peu oublié, dont une grande sélection est ici présentée. On sait que Polke a utilisé très tôt la photographie, à la fois de façon, on va dire, documentaire pour réaliser ses peintures, mais aussi de façon autonome. Il a toujours tenu à développer lui-même ses photographies, avec une façon très personnelle, une façon, voilà, la porte ouverte, des produits périmés, des temps de pause étranges. Donc on a souvent des sous-expositions, double exposition, bref, on va en parler. Quel est le statut de ces images? En tout cas, c'est la question que peut sembler nous poser cette exposition. premiers sentiments sur cette exposition du bal Les Infamies photographiques de Zygmar Polke, Stéphane Coréard.
Ben, je trouve que c'est une exposition magique et nécessaire.
Frédéric Bonnet.
Une immense liberté et un esprit frondeur.
Corinne Rondeau.
Mais qu'est-ce qu'il y a à voir quand il n'y a rien à voir?
Bon, alors là, après ma présentation qui était déjà pleine de questions, il y en a encore plus maintenant. Mais on va comprendre pourquoi elle est magique, peut-être. Magique et nécessaire. Mais d'abord, Stéphane Correa, avant de livrer vos propres commentaires, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition au bal?
Mais en fait, tout est dans ce que vous avez indiqué, Arnaud, c'est-à-dire que cette caisse qui a été redécouverte et qui contenait 900 photographies, ben, c'est un travail forcément d'archéologues qu'ils ont dû faire, parce qu'il n'y avait aucun classement, aucune légende, donc c'est sorti comme un magma et c'est exposé un petit peu aussi comme ça. Comme vous l'avez dit, l'exposition est tout à fait légitime, puisque le rapport de la photographie, de Polke à la photographie est très important. C'est effectivement ni de la documentation ou du travail préparatoire à son travail de peintre, comme ça peut être le cas chez son camarade Richter, ni un usage pictorialiste de la photographie. On est vraiment ailleurs. Donc dans ce magma, qu'est-ce qu'on voit? On voit des photographies qui ont tous plus ou moins le même format, A4, souvent à peu près A4, 20 par 30 on va dire, souvent horizontales, plus rarement verticales, toutes quasiment monochromes, en tout cas des camailleux qui vont, c'est du noir et blanc, mais en fait ça va plutôt, en fait c'est très peu contrasté en général, ça va plutôt du blanc sale au gris souris clair on va dire, en passant par toute la gamme des ocres et des dorés. Mais toujours plutôt clair. L'essentiel, vous l'avez dit, étant des tirages réalisés par l'artiste et parfois aussi des photocopies. Donc la première impression est assez abstraite, nuageuse. On a l'impression d'être dans ce monochrome comme ça, et puis dans le brouillard, et puis émergent des motifs récurrents qui finissent par s'imposer et qui évoquent directement là l'univers du peintre, de ce qu'on peut connaître de Polke. D'abord, il y a des autoportraits, parfois réalisés avec la complicité d'amis, évidemment, des portraits de son entourage artistique familial, des photos de voyage qui évoquent aussi des années où il n'a pas peint, puisqu'on sait qu'il a passé beaucoup de temps sur les routes, la drogue. Qui est aussi un motif important, et des tramages obtenus par photocopies successives qui là évoquent plus des tableaux qu'on connaît de lui. Donc cette exposition archéologique l'est aussi parce que ces œuvres n'ont pas été montrées du vivant de Polke, donc on ne sait même pas comment il aurait voulu les montrer. Et les deux niveaux, puisqu'il y a au bal, comme vous le savez, un rez-de-chaussée et un sous-sol, sont organisés de manière antagoniste, que je trouve finalement assez ouvert, assez intéressant, même si au départ on s'interroge sur ce parti pris, puisque au rez-de-chaussée c'est des groupes de photographies, un peu par thème, par moment, par lieu, par famille, qui sont mis d'ailleurs de manière assez ouverte, comme une espèce de puzzle, pour montrer ce côté peut-être précaire de cette proposition. Il y a des, par exemple, 4 détails des vieilles de Goya, ailleurs des portraits. Et puis au sous-sol, en revanche, c'est une ligne ininterrompue d'images.
Bon, c'est beaucoup plus grand aussi, cadres, il faut dire, le sous-sol.
Oui, mais avec des cadres aussi qui sont faits et qui indiquent qu'on pourrait les permuter, les montrer autrement. C'est en fait une présentation provisoire de ce travail, et je trouve intéressant justement que l'installation, le parcours montre cette instabilité qu'on retrouve évidemment ensuite dans les photographies.
Frédéric Bonnet, pour revoir cette exposition, est-ce qu'il faut connaître le travail pictural de Zygmar Polke, ou est-ce qu'on rate beaucoup si on ne le connaît pas si bien que cela?
Je ne suis pas certain qu'il faille connaître le travail pictural de Polke. Ce qui me paraît néanmoins évident à la visite, si on connaît le travail de Polke, c'est que il y a des liens évidents entre l'un et l'autre. Il y a une manière de brutaliser l'image qui est là présente partout dans les photographies et qui est éminemment présente dans beaucoup de ces tableaux. Bernard Marcadet emploie, je crois, le terme de contamination réciproque entre la photographie et la peinture, et je crois que c'est assez vrai parce que il y a des ponts qui sont dressés. J'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elles sont nourries l'une de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des effets visuels, des effets de recouvrement, des effets offset parfois. Et puis alors, en termes de visuel, avec le médium photographique, on s'emballe parce que on va multiplier les déformations, les doubles expositions, les effacements, les superpositions, les étirements, enfin tout ce que vous voulez. Il a un peu tout. tout essayé. Et donc, comme pour la peinture, en fait, la photographie semble être un perpétuel champ de recherche. Mmh. Donc, je pense pas que il y en ait une qui précède l'autre, qui prédomine à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une cohérence et une contamination. On va revenir là-dessus.
Corinne Rondeau, exposition Zygmar Polke au bal.
Mais oui. Non, moi je trouve ça admirable parce que c'est vrai que la première perception est assez spectrale, puisque ces effets noir et blanc, ces espèces de brumes.
C'est pas toujours ce qu'on voit. Hein.
Non, bien sûr, mais
qu'est-ce
quand même.
Qu'est-ce qu'on voit quand on voit rien, c'est ça que vous disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit rien? Parce que fait en fait Paul que quand il met toute cette chimie, toute cette manière? En fait, c'est quelqu'un qui produit de l'accident en permanence. C'est à la fois écrit dans le catalogue, mais ça se voit parce qu'en fait rien n'est ordonné en termes de méthodologie, même pratique. Il y a des effets effectivement de superposition. Donc ça trouble l'image, et ce qui est formidable dans cette manière qu'il a de développer un film comme il ne faut pas, de faire une photographie en bougeant, autrement dit, ce qu'il y a sur la pellicule est déjà flou, donc ensuite il va le refotographier par exemple, donc c'est une manière de superposer, de déplacer, c'est quelqu'un qui n'est jamais ailleurs que dans ce film qu'on voit dans l'exposition de Loes Mommaerts, qui s'appelle Droite et Gauche, parce qu'en fait, donc, Polke joue dans le film, et ce sont un homme et une femme, chacun dans sa pièce, ils se téléphonent, on se dit donc champ contre champ, lui est dans son salon, elle est dans sa chambre, et donc on comprend qu'ils vont se réunir. Mais en fait, ce qui est formidable, et c'est tout le travail, en fait, je trouve que c'est vraiment, ça explicite avec beaucoup de joie, beaucoup de vitalité, ce qu'est le travail de Paul, que c'est-à-dire, à un moment donné, comment vous passez le mur, quoi. Et donc, à un moment donné, vous avez les deux personnages qui passent dans une pièce. Donc là où vous croyez qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont ensemble, même si les formes nous les montraient, à cause de la séparation du cadre. Et donc d'un coup, ça finit par une bataille de peluchon, et puis une pluie de plumes, et puis des rires, et puis ce personnage qui retrouve, ce garçon, Paul en l'occurrence, qui retrouve son canapé, la bouche ouverte, et en fait, il y a une brûlure qui est faite à l'endroit de sa bouche. Et en fait, c'est du processus de passage en permanence. Ce film le démontre, et son travail... Tout ce qu'on voit, c'est cette ligne en bas qui fait le tour de la salle, ces puzzles dont vous parliez tout à l'heure, cette manière d'agencer de manière non orthodoxe, mais qui sont comme des nuages. Et cette ligne merveilleuse du rez-de-chaussée noir, littéralement, quasiment, à côté des sorcières, par exemple, c'est une manière de rappeler Goya. C'est-à-dire que la raison, effectivement, elle est capable de produire des monstres. Mais les monstres, c'est du jeu. C'est cette manière de dire comment un artiste peut-il faire sortir la représentation pour faire apparaître de l'image. Et en fait, effectivement, une image, c'est pas simplement quelque chose de net qui reproduit du réel, c'est, pour reprendre le mot de Marcadet que vous citiez, Frédéric, contaminé, mais c'est aussi ce que dit Marcadet dans son texte, à dissoudre la forme et faire apparaître l'image. Et tout ça, toute cette chose qui semble être qu'une ligne de brume devient en fait à chaque fois un accident que produit Polke. Et quand un type veut produire de l'accident, c'est qu'il aime intensément les rencontres et pas que la drogue. Autrement dit, c'est une exposition où on se dit tout est raté et vous adorez Beckett, Arnaud.
Ouais.
Et donc,
il faut rater mieux.
Toujours raté
encore.
Mieux. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est une manière, tout le temps, de voir que cet artiste, il dégage la représentation de l'art pour faire de l'art, même si cet art-là a été retrouvé dans un carton. Parce que, d'une certaine manière, toutes ces procédures ludiques ou jouissives font partie aussi de la peinture qu'on peut retrouver chez Polke.
Stéphane Correa, magique est nécessaire.
Oui, est nécessaire. Justement parce que je pense que si on a la chance de pas connaître la peinture de Polke, il faut aller voir cette exposition, que c'est génial que cette exposition soit dans un lieu de photographie, que tous les gens qui adorent la photographie voient cette exposition, y compris s'ils connaissent pas au préalable le travail de Polke. Je trouve ça extraordinaire parce que Polke, justement, c'est peut-être celui qui n'accorde aucune confiance à la photographie, c'est-à-dire ni à sa capacité à montrer le réel d'aucune manière, ni à ce qu'est la photographie finalement. Il met absolument tout en crise, effectivement, de la prise de vue jusqu'au tirage, et là où la photographie tend habituellement à figer un moment, finalement, lui, il en fait un médium totalement liquide, insaisissable, infâme, dit effectivement Bernard Marcadet. Je disais, dès la prise de vue, bon, on l'a dit un petit peu, il recourt à toutes sortes de procédés, sans ordre ni méthode. tout se mélanger, la superposition, la surisation, la surexposition, la sous-exposition. De toute façon, il n'y a aucune prise de vue
dessus-dessous
qui soit orthodoxe. Et effectivement, ces triturations du médium sont rejouées au tirage dans en fait un processus d'alchimie pure qui est de toute façon la forme réelle du travail de Polke. On parle du catalogue, effectivement, qui est génial. Le texte de Marc Cadet, pour une fois, un texte où on comprend tout, c'est quand même, ça change tout. Il y a un entretien avec Bitche Corriger qui est génial, et un texte de Daryl Zeman qui est dans du commissaire d'exposition Harald Zeman qui est dans l'exposition, et que j'aimerais pouvoir lire. De toute façon, on ne peut rien dire de mieux sur Polke et sur ce travail. Je dis juste les trois premières lignes parce que ça dit tout. Le titre du texte, c'est en français Mauve ou Herbe à Sigmar, et le texte d'Harald Zeman commence comme ça: ce qui est clair, il s'en méfie, ce qui éveille la méfiance, il lui fait confiance, ce qui est beau, il l'abîme, ce qui est abîmé, il le réconforte, ce qui est réconforté, il le questionne, ce qui est questionné, il le moque. Et voilà, c'est toute une litanie comme ça, et on peut pas mieux parler. Enfin, voilà, tout ce qu'on pourrait dire serait en deçà de ce qu'on a dit Zeman, parce que effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui va au-delà de l'art. Quand je parle de l'alchimie, c'est, on pense effectivement à ce que, quand on le sait, quand on a eu la chance de le voir, à ce qu'il avait fait à la Biennale de Venise en 86, qui était absolument magistral, où il avait peint les murs avec des matériaux photosensibles qui évoluaient toute la journée, où les couleurs évoluaient, il avait passé une météorite extraterrestre au centre, etc. C'est quelqu'un qui, effectivement, dans l'accident, c'est ça qui est génial, et c'est là où il a un travail de l'image, je trouve, qui est unique, c'est que dans ses répétitions, dans ses refotographies, dans ses photocopies, etc., il cherche à faire naître l'accident qui était imperceptible à l'œil nu, et lui le rend visible, et c'est là que l'aventure commence.
Corinne Rondeau.
Oui, c'est une manière de dire, abîmer, c'est prendre soin, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Et juste pour finir sur une phrase de Paul, que quand même, c'est les solutions sont le produit du manque de liberté et de l'insatisfaction. À bon entendeur, salut.
Frédéric Bonnet.
Oui, non, pour revenir sur cette idée de l'enregistrement du réel, justement, que la photographie de Polke est tout sauf un enregistrement du réel. A contrario, ce qui est formidable dans ce travail, c'est que tout visuel a un potentiel. Et ça, l'exposition le montre merveilleusement bien. Alors évidemment, il y a les expériences hallucinatoires qui permettent de se détacher encore plus du réel et de multiplier les expériences visuelles, mais sous influence ou pas, sa photographie, c'est une expérimentation constante, comme l'était sa peinture. C'est pousser les limites du médium, c'est déformer, c'est brouiller l'image, c'est rechercher des effets visuels. Parfois même, quand on s'y attend pas, moi, une de mes photos préférées, c'est celle qui est le moins bricolée, entre guillemets, c'est à travers une vitrine, on voit un rayonnage de produits d'entretien, tous bien ordonnés, et devant il y a un dalmatien dont les taches viennent mettre un peu le bordel là-dedans. Cette image est absolument merveilleuse.
Sigmar Polke, photographie, les infamies photographies de Sigmar Polke, c'est le vrai titre de cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 22 décembre au Bal. J'ai découvert l'objet même du catalogue aujourd'hui. Il est absolument fascinant, et il rejoue autre chose, en fait, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ces photos, elles sortent de, pas de nulle part, mais d'une malle, et on peut en faire beaucoup de choses, et notamment ce magnifique catalogue qui est édité par le Bal, j'imagine, comme d'habitude. Ne ratez pas ça. Une exposition en galerie pour le coup de cœur de Corinne Rondeau. Les expositions en galerie, c'est ouvert, c'est d'accès libre, vous y serez normalement bien accueillis. Pousser les portes des galeries, en l'occurrence celle de la galerie Christophe Gaillard, Corinne.
Oui, pour Parenthesis, Corner to Corner in Place. Alors, c'est Richard Nonas, il est né en 1936, il a été anthropologue avant d'être sculpteur. Et je dois dire que l'exposition que propose la galerie Christophe Gaillard est très belle, elle a beaucoup de rigueur, mais Richard Nonas était là pour placer ses œuvres. Il a donc quasiment 80 ans, et il faut dire que lorsque vous savez que vous avez des madriers de chêne, que vous avez du granit, des plots de granit, qu'il les soulève lui-même et qu'il les place, qu'il mesure l'espace, parce que c'est très très rigoureux. Donc vous avez des matériaux qui ont un rapport très brut à la sculpture, granit, bois, chêne, mais aussi dans la troisième salle qui est plus basse dans la cour de où se trouve la galerie Christophe Gaillard, vous avez des représentations de monochromes noirs et un peu blancs faits à la craie grasse noire, mais aussi à la peinture, qui ressemble parfois à certains fusains que Richard Serra avait fait. Donc c'est une exposition, on va dire, qui a une apparence minimaliste, mais ce qui est certain, c'est que Richard Nonas a une manière, en fait, de faire d'expérimenter le lieu. Et chaque fois, c'est une manière de le transformer. Et sa sculpture, qui a vraiment une dimension d'une présence brute très très forte. Moi, j'ai toujours été... Je l'ai vu deux fois et j'avais l'impression toujours d'attendre une épiphanie. Parce qu'il y a un rythme qui est absolument remarquable, fait par de la lumière. Vous avez des positions entre cet arc qui ressemble à une cicatrice au sol de ces plots de granit. Mais en fait, cet arc de granit passe d'une salle à l'autre jusqu'à la troisième. Donc en fait, il unit tous les lieux qui sont séparés. C'est ça l'expérimentation du lieu et de rendre réel ce lieu. Et c'est surtout que c'est quelqu'un qui interroge le rythme, la direction, et tout est une continuité. Et en même temps, là aussi, la longueur, parce que c'est grand, c'est petit, vous avez des associations de bois qu'il a fendu. Et en fait, vous n'arrêtez pas de penser à l'absence du coup de hache dans ce bois, des choses d'une beauté folle. Et en fait, ça vous conduit vraiment à penser à la fois du silence et en même temps de penser, cette grande arc ressemblait à une cicatrice, j'avais l'impression et il parle beaucoup de la question de la blessure du monde, qui sont en fait tous ces objets qui se distinguent de la nature. Et donc je trouve que quand un artiste parle de sa sculpture comme des drapeaux du combat, il y a bien un rapport qui se passe entre l'espace et la sculpture, et je trouve vraiment que c'est une vraie question qu'il pose entre la rigueur de la sculpture aujourd'hui, mais elle a aussi un rôle à jouer dans la société, cet art-là, et c'est la question qu'il pose aujourd'hui. C'est-à-dire, l'art ne doit pas être facile, il ne doit pas être assimilable. C'est toute l'expérience qu'on fait dans cette exposition. Enfin, moi, j'ai trouvé ça admirable.
C'est jusqu'au 23 novembre, cette exposition Richard Nonas, qui a bien plus de 80 ans.
36.
Bientôt oui. 4. C'est au 5 rue Chapon, à Paris, la galerie Christophe Gaillard.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier sujet de notre sommaire, c'est l'exposition de Katinka Bock à Lafayette Anticipation. Katinka Bock, elle est née 40 ans après Richard Nonas, en 1976, en Allemagne, post-diplôme aux Beaux-Arts de Lyon. Elle vit et travaille à Paris. Elle a reçu en 2012 le prix de la Fondation Ricard. Elle était cette année dans les nominés du prix Marcel Duchamp. Exposition, on va en parler, qui s'intitule cette fois « Tumulte à Hygiénopolis ». On va écouter un extrait d'un entretien que Katinka Bock avait donné à Marie Richaud dans « Par les temps qui courent ». C'était le 23 mai dernier sur France Culture.
J'essaye toujours d'écouter mes sculptures et aussi les matières. Chaque matière a d'autres limites et d'autres qualités et c'est vraiment des partenaires. Si c'est la céramique, elle est géniale parce qu'elle n'a pas de préforme. Elle est comme du beurre, comme la glace. Ça a toujours besoin de... C'est comme de l'eau, c'est une masse, mais ça a besoin d'un conteneur ou de devenir conteneur. Le bois, c'est différent parce que l'arbre est toujours un peu là. Et soit c'est l'arbre à la verticale, qui par la verticalité, ça appartient à l'homme. Ou l'horizontalité, c'est tout de suite, c'est un peu un bateau déjà. Je trouve que chaque matière emmène pas seulement une qualité à des outils, mais aussi à des notions d'espace. J'ai découvert les couleurs aussi maintenant, mais plutôt, je remarque seulement maintenant que tout a une couleur en fait. C'est qui est évident, mais c'est assez récent que je le vois d'une manière consciente.
Premier regard, cette exposition Katinka Bock, Frédéric Bonnet.
Intrigant et répétitif.
Corinne Rondeau.
Ennuyeux.
Stéphane Correa.
Je crois que vous avez tout dit, hein. Il y a beaucoup de bonnes expositions à voir en ce moment à Paris.
Frédéric, qu'est-ce qu'on voit dans ces espaces mouvants, modulables de Lafayette Anticipation ?
Là, c'est pas très modulable parce que le plateau qui est censé se déplacer, je crois qu'il est placé en bas. Donc,
tout simplement.
Tout simplement, donc l'atrium central est dégagé et l'exposition s'appréhende sur trois niveaux à partir du premier étage. Donc il y a rien au rez-de-chaussée. La pièce centrale, géographiquement et par ses dimensions, est une grande sculpture de 9 mètres de haut, donc suspendue dans l'atrium, une sculpture en fibre de verre et recouverte de plaques de cuivre. Alors là, il faut faire une petite digression pour expliquer d'où viennent ces plaques de cuivre. Elles viennent du dôme d'un immeuble très célèbre de Hanovre. Je ne parle pas l'allemand, donc je vais
éviter de me
lancer dans le nom du bâtiment.
Dommage.
Parce que voilà, ça serait pitoyable.
Peut-être avec l'accent espagnol, peut-être.
Mais c'est un bâtiment important de la ville de Hanovre qui abritait notamment les rédactions des journaux Stern et Der Spiegel. Et donc le bâtiment a été restauré et Katinka Bock a pu récupérer des plaques de cuivre du dôme de ce bâtiment. Donc elle recouvre cette forme semi-ouverte qui est suspendue. Et les deux niveaux qui entourent l'atrium se déploient dans un parcours très ouvert et très libre. Beaucoup de pièces en céramique, des plaques en cuivre suspendues à des câbles, des cactus en béton, un boa en cuir qui avale une grosse pierre, un personnage perché au dernier niveau. Voilà.
Corinne Rondeau.
Oui, eh bien écoutez, c'est très ouvert, c'est très disséminé. C'est très organisé, mais du point de vue de la matière grise, c'est très abstrait. C'est l'art contemporain.
Trop conceptuel.
C'est pas conceptuel, je pense. C'est vraiment tenu par des. Oui, peut-être, mais il y avait, vous savez, l'art conceptuel.
Oui,
donc là, j'avais effectivement, j'ai un intérêt dans ces années-là, dans les années 60.
Je pense qu'il était conçu plus par la matière grise que pour son émotion
esthétique.
Oui,
il y avait des idées, et là, j'ai l'impression que l'idée est coupée en morceaux. Elle est un peu éparpillée dans toutes les formes. Et j'ai l'impression donc que c'est très tenu par du cérébral. Et en fait, je me suis beaucoup ennuyée parce que je n'ai pas vu, si vous voulez, cette manière dont le rapport entre le politique, parce qu'elle travaille sur la dimension politique, semble-t-elle, la presse, l'édition, mais en même temps de le transformer pour le mettre dans un environnement accessible. Et donc en fait, on perd tout, on perd l'histoire, on perd ce soi-disant politique, parce que si on met pas politique dans l'art contemporain, ça va pas, vous savez, les gens sont malades après. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez moche. J'ai trouvé ça peut-être effectivement intriguant parce que d'un coup on se dit mais à quoi sert le vide par rapport à ces sculptures, parce qu'elles sont placées dans des angles, en hauteur, sont pas toujours accessibles, elles sont loin, elles sont près. On peut être dans cette grande forme que vous avez décrite, Frédéric. Il y a dans l'escalier le moulage de cette grande forme. Vous avez des influences aussi venant des maisons qui se protègent en Amérique du Sud, dans des murs de verre. Donc vous avez une porte de verre comme ça. Si vous voulez, ça ne m'a rien raconté. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait faire de la sculpture qui serve à perdre les gens dans l'espace pour essayer de nous rappeler quelque chose d'une histoire. Une histoire qui n'est pas celle de la sculpture, mais une histoire de lieu. Mais en fait, ces lieux ne viennent pas à moi. Donc en fait, le lieu de Lafayette Anticipation était lui-même perdu dans ces lieux qui voulaient être là à travers une sorte de dissémination des formes.
Stéphane Correa, sur cette exposition de Katinka Bock.
Oui, c'est un travail qui est extrêmement riche, pourrait-on dire d'une certaine manière, mais qui en même temps se neutralise en permanence. C'est un travail qui jouit d'une très bonne considération sur la scène de l'art contemporain, on peut dire qu'elle a la carte. Et c'est un point d'équilibre presque parfait, effectivement, de ce qu'est, de ce qu'on certaines personnes attendent de l'art contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire c'est à la fois un travail d'atelier, mais qui intègre une dimension in situ, qui se réfère effectivement à la pensée, à la philosophie, je suis tout à fait d'accord avec le côté cérébral, mais en même temps qui s'incarne dans une très grande matérialité, qui possède une dimension performative, mais qui s'incarne dans des matériaux très traditionnels, le métal, la terre, la pierre, et qui se revendique effectivement comme profondément politique, mais qui paraît très abstrait. Donc finalement, c'est un peu le « en même temps » version sculpture, je dirais. Et là, l'exposition, ce qui est peut-être fâcheux à mon avis, rajoute encore d'autres dimensions de neutralisation. C'est que ce travail effectivement est en même temps minimal, microscopique parfois et monumental là pour le coup, parce que ça va de un simple fil qui est tendu autour d'un pilier avec une sculpture microscopique, on dirait une crotte de nez, à ce truc de 9 mètres. Effectivement, elle est en même temps politique, protestatrice. Il y a une photo, la seule œuvre qui ne soit pas d'elle, une photo de Rémy Duval, un clochard au bord de la Seine vers 1940. Donc on a bien compris. Après il y a des gisants, etc. Donc on a bien compris un peu le propos. Et en même temps, ce propos politique est immédiatement désamorcé par le côté profondément intégré de cette exposition, qui est effectivement dans ce lieu difficile, qui est en plus un lieu d'une fondation d'entreprise, où on arrive quand même, et la première œuvre qu'on voit à laquelle on est confronté, c'est ce display avec ces espèces de formes qui font partie du lieu, avec un bijou qu'elle vient d'éditer, un collier édité à 50 exemplaires, qui est posé comme dans une bijouterie comme chez Tiffany, sur les mêmes matériaux que ceux qu'on va retrouver ensuite. Donc on ne sait plus si on est dans un grand magasin, mais dont on a enlevé provisoirement les produits, et il ne reste plus finalement que la publicité sur le lieu de vente, quoi, que les éléments de PLV.
Frédéric Bonnet, un peu moins dur que vos camarades, hein, dans votre regard.
Je trouve, pour rejoindre quand même quelques propos de mes camarades, c'est que Katinka Bock a un peu raté sa gestion de l'espace. Il y a une sorte de maniérisme dans son vocabulaire qu'elle a encore accentué par des répétitions qui n'étaient absolument pas nécessaires. Comme si elle avait eu besoin de remplir un peu tous les coins alors qu'il n'y avait pas d'impérieuse nécessité à le faire. Néanmoins, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette culture, quelque chose du temps qui passe et d'une suspension des états. Il y a quelque chose de pas défini qui moi m'intéresse, et ce que j'en trouve le meilleur exemple, mais alors là justement, et c'est là où je dis qu'elle en a peut-être un peu trop rajouté, parce que pour moi c'était dans une des choses les plus petites à voir dans l'exposition. Il y a une photo d'un détail, on ne sait pas exactement ce que c'est, une espèce de tissu, de drapeau qui vole, et ça s'intitule Copan, et je crois que c'est une photo de un des immeubles les plus célèbres de São Paulo, qui s'appelle Edificio Copan, et c'est qui est une architecture de Niemeyer, et c'est même pas une photo de l'immeuble, mais c'est une photo d'un détail de la gaz qui le recouvre, parce que l'immeuble est très très dégradé et doit être restauré. Donc voilà, il y a quelque chose. Moi, j'ai trouvé cette image intéressante sur oui, la suspension des états, la disparition potentielle et la sculpture qui laisse flotter des états incertains.
Moi, j'ai pas encore vu cette exposition. Je me demande effectivement comment on y est accompagné aussi dans ce lieu.
Ah bah très peu. Alors l'exposition s'appelle.
Il y a des médiateurs partout pour poser des questions. C'était ça la.
Oui, c'était ça.
Oui, heureusement, c'est comme ça qu'on sait effectivement que les feuilles de cuivre.
La question, elle.
Mais bon, l'exposition s'appelle Tumulte à Hygiénopolis. J'ai cru que c'était le titre du nouveau SS 117. Il y avait déjà Rio ne répond plus. Après Tumulte à Hygiénopolis, en fait, pour moi, c'est plutôt rien de nouveau à Hygiénopolis, puisque quand même, ce qu'il faut dire sur toutes ces formes, c'est qu'elles viennent directement de Beuys, de Mario Merz, de Tony Grant, de Barry Flanagan, des premiers Barry Flanagan, même de Tatiana Trouvé. Enfin, je trouve
donc
que là,
d'autres
vraiment,
grands artistes l'ayant précédé dans l'histoire.
Exactement. Et donc pour
je fais le sous-titre en même temps.
Voilà. Et pour finir, je voudrais juste finir justement sur Sigmar Polke, parce que finir avec ce clochard qui contamine un peu toute l'exposition, il faut dire que des corps allongés sous des couvertures dans la rue, maintenant, on en voit dans tout l'art contemporain. Je voudrais juste dire que Sigmar Polke, qui lui en a photographié au début des années 70 à Cologne et dans le Bowery, dit dans l'entretien quelque chose que je trouve magnifique du catalogue du bal. Il dit « Eux ne peuvent pas se défendre si tu les photographies. C'est pourquoi ils sont exploités esthétiquement. J'ai pensé pour ma part faire un film avec toutes ces existences que produit la société. Ce n'est pas facile, car tu te fais une idée sur eux et sur les gens qui les ignorent et qui passent à côté. Mais à qui vas-tu montrer tout ça? Ce ne sont ni des héros, ni des ratés. Tu passes tout simplement à côté. »
Ça, c'était pour Sigmar Polke, au bal, rappelons-le, jusque, quelle est la date? 22 décembre. Oui. Katinka Bock, elle, est présentée jusqu'au 5 janvier avec cette exposition à Lafayette Anticipation. Avant de conclure le jeu de la dispute avec David Dana, qui va d'abord nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse.
Quel est le titre de l'atelier d'écriture qu'anima Agnès de Sarthe durant les 36e assises de la traduction littéraire? Et la réponse est « Je hais les ateliers d'écriture ».
On fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle La Dernière Bande de Beckett, mise en scène Jacques Rosinski, Denis Lavant. Des places à gagner pour la représentation de samedi soir, 9 novembre à 20h à l'Athénée, Théâtre Louis Jouvet. Quelle est la question?
Qui a écrit La Dernière Bande?
Je l'ai dit, non. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Marie-Claire Oumabadi. Réalisation, Émilie Valla. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux prix littéraires. On reviendra sur les prix Goncourt, Renaudot, Femina et de l'Académie française.